transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et puis après, on doit être aussi une réponse pour les familles dans ce monde. Pour toutes ces familles déchirées, violentées, malmenées. Pour toutes ces mamans seules, ces enfants maltraités, pour tous ces SDF, ces migrantes, tous ceux qui sont là. Et puis on a une génération qui se lève et qui est la proie des idéologies de ce monde pour être détruite par le diable. On est dans des temps un peu comme ces temps où on jetait les enfants là dans l'Nil. Mais une famille découvre le plan d'amour pour son fils Moïse. Et quels qu'aient été les temps, Dieu a toujours suscité au travers des hommes et des femmes de Dieu, au travers du peuple d'Israël, puis des églises locales, il a toujours suscité des hommes et des femmes qui ont pris soin des enfants. Alors ce matin, on va continuer un petit peu notre histoire d'hier, j'allais dire dans cette dynamique aussi de ce qu'on vit en famille, en église et en association familiale au sens large du terme avec nos églises et les œuvres qui traduisent notre foi en acte. On va continuer notre récit en zoomant sur la fin. Et moi j'aime bien les films qui se terminent bien. Les histoires les plus terribles, on arrive à les lire quand enfin moi j'aimais bien regarder juste la petite recension et je me dis si ça se termine bien alors ça vaut la peine de plonger dans ce qui est mal. Si ça se termine mal, on finit par faire des cauchemars et ça nous apporte rien. Et la Bible, c'est un livre extraordinaire parce que quand on plonge dedans, c'est plein d'histoires terribles. De drames, de meurtres, de viols, d'incestes, de bagarres, de tueries, d'anéantissement, de populations, de génocides. Mais ça se termine toujours bien. Toujours bien. Parce que dès le commencement, Dieu avait prévu le happy end, n'est-ce pas? Alors, on va pas aller directement dans le deuxième livre des rois pour voir la fin de notre histoire. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage vraiment, quand vous retournerez à la maison, à lire le texte tout entier, parce qu'on va juste zoomer sur la fin, sur le meilleur. Mais avant, on va lire deux textes, un texte dans la Genèse, au commencement, ça va ? Et puis on va lire le même dans l'évangile de Jean, qui va... Parce que ce matin, je voudrais que ce soit pour vous, enfin je crois que vraiment, quand on a préparé avec Christian ce temps... Dans la suite d'hier, c'est que avec Dieu, on peut toujours tout recommencer.
Amen.
Tout recommencer. Mais d'un commencement qui n'a rien à voir avec les recommencements humains. Alors, on embarque, vous embarquez avec nous et on ouvre la Bible dans le premier livre, celui de la Genèse.
Dans la version Semeur, vous m'entendez bien ? Au verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit.
On va dans l'évangile de Jean, si vous avez vos bibles. Moi, j'aime entendre les pages qui tournent. Comme ça, je suis sûre que vous lisez.
Voilà.
Quand on ne voit pas, on a besoin d'autres repères. C'est difficile aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Dans Jean, chapitre 1, jusqu'au verset 5. Au commencement... était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée.
Ah, vous voyez, moi j'aime la lumière, quand on ne voit pas, on aime la lumière. Mais on aime cette lumière qui nous permet de voir au-delà
de ce qu'on ne voit pas avec les yeux de sa chair. Et on a, ces deux textes sont reliés directement avec cette scène qu'on va redécouvrir ensemble. Souvenez-vous, il y a eu l'attouchement de Dieu, le miracle dans cette petite famille à Sunam. Et alors que l'épouse d'un monsieur un peu plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé, nous dit la Bible, ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qu'elle a invité chez elle l'homme de Dieu, le prophète Élisée, son serviteur, alors qu'ils se sont donné de la peine, elle et son mari, pour aller plus loin qu'une simple invitation, mais pour faire de leur demeure la demeure d'Élisée et de Géasi, en construisant une sorte de chambre haute, en y mettant un lit, une table, une chaise, une lampe, un lit qui symbolise là le repos, la méditation dans une relation comme ça de lâcher prise, une table et une chaise où on écrit, où on plonge dans les écritures, où on passe du temps là de façon plus sérieuse, plus profonde dans la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Une lampe, parce que tout ça doit être éclairé, parce que Dieu n'agit pas dans les ténèbres, parce que Dieu est lumière. Donc voilà, cette petite chambre a été préparée pour l'homme de Dieu, et puis il se passe un miracle imprévu, insoupçonné, parce qu'il n'avait rien demandé, ce petit couple, mais Dieu leur donne de vivre l'impensable, celui d'avoir un enfant et de le voir grandir comme un don de Dieu pour transmettre, pour entrer dans un nouveau plan. Et puis l'enfant grandit et puis il y a des choses comme ça dans nos vies qui sont terribles et qui semblent anéantir toutes nos certitudes, toute notre confiance même en Dieu parfois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça ébranle tout et l'enfant meurt. Et puis on retrouve cette femme qui dépose l'enfant sur le lit dans cette chambre haute et qui retourne auprès de l'auteur de la bénédiction, de celui qui a fait la promesse, et elle le ramène à la maison. Et donc là, on est dans cette chambre
qui ressemble au chaos de la Genèse. Il y a un lit sur lequel l'enfant repose. Il y a comme des ténèbres dans cette chambre. Ceux qui ont déjà, hélas, été voir quelqu'un dans une chambre funéraire, il y a quelque chose là de froid, de ténébreux, de glacial, vraiment. Et ça ressemble tellement à ce texte de la Genèse. La terre était informe et vide. Il y avait quelque chose comme ça qui fait peur, qui effraie, qui... Et l'esprit se mouvait au-dessus de ce vide, au-dessus des ténèbres, au-dessus de ce rien. Alors on embarque là avec le prophète Élisée qui arrive dans cette chambre qu'il avait quittée pleine de vie. Qu'il avait quitté certainement en entendant le petit garçon qui avait grandi, chanter, danser. Et il arrive, la lampe est éteinte certainement. La mort plane et l'enfant est là, inanimé. Lisons dans le deuxième livre des Rois.
Chapitre 4, verset 32. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux et d'eux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua cette fois et rouvrit les yeux. Amen.
Waouh, hein ? On peut tout recommencer avec le Seigneur. Il y a des recommencements dans nos vies qui sont des nouveaux commencements. Je préfère encore le nouveau commencement. Au commencement, la terre était informe et vide. Alors bon, sans me plonger dans de la théologie et des recherches poussées, si la terre était informe et vide, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait existé avant. C'est qu'il y avait eu un tohu-bohu, un remue-ménage, quelque chose qui faisait qu'on était comme dans cette chambre-là. La vie, l'ordre, l'espérance avaient quitté cet espace dans lequel Dieu voulait intervenir. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et ce matin, je crois que vraiment c'est important qu'on réalise que l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous. L'Esprit de Dieu se meut sur ta vie. Et quelles que soient les zones, quelles que soient les situations pour toi, pour les tiens, pour ton église, quelles que soient les situations où tu te dis, mais là, il y a un véritable chaos, il y a du désordre. La parole de Dieu nous rappelle que quand elle est proclamée, que quand elle est prononcée, alors elle produit toujours quelque chose. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et dans la parole, il y avait la lumière, et dans la lumière, il y avait la vie. Notre famille, quand le Seigneur est venu frapper à la porte de notre maison, moi j'avais 5 ans. Mes parents étaient loin de Dieu, ils en avaient à découdre avec la religion et vraiment il n'était pas question de leur parler de Dieu. Mon grand-père était un grand-père incestueux, mon père avait vécu dans la violence et dans tout ce qui condamne quelque part une fratrie et puis une vie d'homme ensuite à bien se construire. Donc mes parents ont essayé de construire avec tout ça, mais sans Dieu, et tout allait de mal en pis. Et puis d'un coup, en plus, on leur dit que leur fille va devenir aveugle et qu'elle elle va devoir grandir avec cette maladie qui peu à peu lui ferait perdre la vue. Donc c'était le cataclysme pour eux, c'était le chaos. Et ma tante est venue les voir et leur a dit, écoutez, si vous ne voulez pas vous approcher de Dieu pour vous, faites-le au moins pour votre fille. Et là, il y a quelque chose qui a résonné. Ils avaient un tel amour pour moi, hein, comme beaucoup de parents, qu'ils ont oublié leur colère, leur doute, leur peur, et qu'ils se sont dit, au moins pour elle. Et l'Évangile est entré dans la maison. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de ma famille, mais qui n'avait pas pu pénétrer, alors a commencé son action. Et mes parents se sont convertis. Et puis petit à petit, ce chaos familial, issu aussi de tous ces dysfonctionnements, issu de tout ce péché pratiqué petit à petit, comme dans le livre de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, et au fur et à mesure, Dieu a ordonné les choses. Mais Dieu n'a pu ordonner les choses dans notre vie, dans notre famille, puis dans notre famille, celle qu'on a construite avec l'aide de Dieu, Christian et moi, ça n'a été possible que parce que la lumière de la vie a pénétré nos maisons. Et parfois, on confond la lumière de la vie avec le soleil et la lune. J'aime lire ce texte à chaque fois en me rappelant que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et que le soleil et la lune, vous vous rappelez, ont été créés après. Après. Alors c'est quoi cette lumière ? Eh bien, cette lumière, ce n'est pas les petites lampes qui sont allumées ici. Cette lumière, ce n'est pas notre morale, ce n'est pas ce qui va faire qu'on va essayer, par nos actes, de transmettre quelque chose de l'ordre de la vie. Non, cette lumière, C'est Christ en nous. Cette lumière, c'est cette parole proclamée qui va révéler tout ce qui est caché, qui va être mis à la lumière et que Dieu va pouvoir ensuite transformer, guérir et délivrer. Alors, voilà, je voulais vous laisser ces petits éléments-là et qu'on puisse se rappeler en pénétrant dans la chambre mortuaire où cet enfant repose, qu'on puisse se rappeler qu'avec la parole proclamée, la lumière jaillit et la vie alors peut se manifester. Dans ta chambre mortuaire, dans les zones de ta vie qui sont dévastées, peut-être par un désordre lié à ton histoire, à ton éducation, peut-être lié à ton péché aussi. L'apôtre Paul disait que quand il voulait faire le bien, le mal était attaché à lui. Et combien dans notre vie chrétienne, tout au long de notre chemin, on a dû aussi réaliser que nos propres péchés, nos propres actes manqués, nos propres besoins assouvis autrement que dans la lumière sur le regard de Dieu, nous ont amenés à quelques désordres et à quelques drames. Oui, quand la lumière jaillit, alors elle révèle la réalité des choses. Et quand Élisée rentre dans cette chambre, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Élisée se couche sur l'enfant. Il y a un transfert là. La lumière qui est en Élisée, la révélation qu'il a du plan de Dieu pour cet enfant le pousse là à faire corps avec lui, le pousse à faire de cette situation quelque chose qui est mis en contact directement avec Dieu. Je crois que c'est un petit peu l'image de l'imposition des mains, de l'onction d'huile. Il y a quelque chose d'un cœur à cœur, d'un toucher divin. Et moi, j'aime beaucoup cette relation qui se crée avec Dieu par la prière, par la louange, mais cette relation qui se crée avec Dieu aussi dans la communion fraternelle, quand on prie ensemble, hein, avec Christian, quand on prie, on se donne la main, et en église, souvent, on fait des petits groupes et on se donne la main. Il y a un corps à corps, il y a un toucher divin. Mais le prophète se couche sur l'enfant. Scène étrange qu'il faut absolument imaginer de façon spirituelle, en nous laissant éclairer par cette lumière divine qui nous donne de comprendre autrement les Saintes Écritures, de comprendre autrement ces scènes bibliques que uniquement dans des faits qui pourraient nous être racontés dans n'importe quel livre d'histoire. Non, ce texte, il est purement symbolique, il est purement parole proclamée pour nous. Le prophète se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur la bouche de l'enfant. Au commencement était la parole. Au moment où le prophète met sa bouche sur la bouche de l'enfant, il y a quelque chose d'une parole qui est de nouveau libérée. Il y a quelque chose d'un souffle de vie qui est de nouveau réactivé. Il n'y a pas possibilité de voir nos vies transformées s'il n'y a pas cette parole proclamée. J'ai quasiment envie de dire, fais-toi du bouche à bouche. Proclame par l'Esprit de Dieu qui est en toi la vie. Proclame par l'Esprit de Dieu qui est en toi la lumière, la vérité. La lumière, c'est la vérité. Dès qu'il y a la lumière, elle te fait passer d'une réalité humaine à une vérité divine qui révèle les choses pleinement. Et puis ensuite, le prophète met ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il y a besoin là d'un autre attouchement divin. La parole proclamée qui permet que la lumière s'allume, que les choses soient révélées, va aussi permettre à tes yeux de recouvrir la vue. On en parlait hier. dans l'Apocalypse, je crois, achète de moi un collyre afin que tu vois. On a besoin d'apprendre à voir les choses autrement. On a besoin... L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce matin, Dieu te donne de proclamer la parole de vie sur ta vie, sur la vie de ceux pour qui tu pries, sur ton église, sur ton réseau. Cette parole proclamée, elle n'est possible que parce que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il veut insuffler la vie. Et puis ensuite, demande au Seigneur un collyre pour tes yeux. Laisse le Seigneur faire tomber les écailles de tes yeux comme ça a été nécessaire pour Paul, Saul de Tarse. Nos yeux doivent s'ouvrir pour comprendre une dimension spirituelle nouvelle. Quels sont les temps dans lesquels on est ? Dieu a besoin de nous. Dans un monde, moi je dis souvent, où on est tous enfumés avec tous ces fake news, avec tous ces mensonges qui circulent même dans nos milieux, avec tout un tas de slogans qui flattent nos égos, qui nous promettent une réussite qui n'a rien à voir avec la réussite selon Dieu. On a besoin véritablement que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent pour comprendre les réalités spirituelles. Pour que nos yeux s'ouvrent pour voir la beauté de ceux qui sont à nos côtés. J'aime ce texte où, quand le bébé naît en Égypte, le bébé Moïse, la Bible nous dit que les parents le regardent et elles virent qu'il était beau. Je suis quand même un petit peu dingue, hein. Pas beaucoup de parents qui regardent leur bébé et qui disent « Oh ! Il est moche !» Et on en reparle dans le Nouveau Testament. Hein. Dieu vit que l'enfant était beau, les parents virent qu'il était beau, mais c'est ce regard d'amour qui se pose sur un enfant, hein. Nous on a accueilli plein de gamins, mais qui se pose sur une personne dans la rue qui souffre, sur un frère ou une sœur qui pleure. C'est ce regard qui nous fait voir la beauté intérieure. La préciosité de l'autre, c'est le regard d'amour de Jésus sur la femme adultère, sur la femme samaritaine, sur Zachée, sur les lépreux, sur Pierre, sur Jacques, sur Jean. Ce regard doit être aiguisé, doit être renouvelé. Mes amis, je crois que ce matin, le Seigneur veut faire non seulement un miracle pour nos vies, mais il veut faire de nous aussi des porteurs du miracle. Et si ce matin, on était tous des Élysées ? Et si ce matin, tous, non seulement on se fasse du bouche à bouche, on se mette nos yeux dans les yeux parce que Christ vit en nous, mais si on le faisait pour nos frères et sœurs, si on le faisait pour ceux qui nous entourent ? Et puis, une fois que la parole a été proclamée, une fois que le regard a été guéri et qu'il est plein d'amour, plein de la conscience de la vérité qui dépasse la réalité. Ce regard aiguisé qui fait aussi qu'on voit les pièges, les démons tapis, les idéologies perverses. Et qu'on est capable d'appeler le péché, péché. Et la vie sanctifiée et transformée, bonne et belle. Alors Élisée va plus loin, il met ses mains dans les mains de l'enfant, les mains qui se posent, les mains qui attrapent les gamins dans leurs bras, les mains qui donnent à manger et qui rompent le pain, les mains qui attrapent le bras de quelqu'un qui a besoin d'être conduit, soutenu. Oui. Un chrétien en action, un chrétien qui a proclamé la parole de l'évangile, un chrétien qui a un discernement et une vue spirituelle sur les choses, doit pouvoir ensuite refaire fonctionner ses mains, relever ses manches et bénir et être source de bénédiction en parole, en regard d'amour et en acte. Et en acte, c'est pour ça que je vous disais que notre église est grouillée et que souvent on dit l'église, elle est encore plus visible chez nous en semaine que le dimanche. mais c'est les mêmes en semaine qui grouillent que ceux qui prient et qui louent Dieu le dimanche. On a besoin aussi de cet attouchement qui nous donne de reprendre courage et de mettre nos mains, nos bras, notre corps physique au service de Dieu, de lui consacrer et de lui consacrer, pas uniquement pour qu'on se fasse du bien, mais de lui consacrer pour qu'on puisse faire du bien aux autres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et aimer, ce n'est pas uniquement de dire « Ah, je t'aime ». Tu es précieux, tu es belle, tu es beau. Aimer, c'est donner les preuves de l'amour. Hein? Dieu a été jusqu'à nous donner les preuves de son amour en se donnant lui-même à la croix. On a dû se remettre en question régulièrement, s'installant dans quelque chose d'assez confortable, dans une routine de vie d'église, de service, même très engagé. On a dû se remettre en question en se disant, mais est-ce qu'on paye encore le prix ? Vous savez, il y a un moment où, à nous souvent, enfin, ça a été un peu le temps à l'église, c'était, oh, mais maintenant, c'est aux jeunes de faire. Et le Seigneur nous a bousculés, vraiment. On aspirait tellement à la retraite. On est à la retraite de la sécu. Mais le Seigneur nous a bousculés, nous a dit, oui, j'ai besoin des jeunes. Mais aussi longtemps que je te prêterai vie, j'aurai besoin de toi. Sinon, à quoi te sert le souffle de vie ? Le souffle de vie divin, pas uniquement celui qui fait que tu vis jusqu'à 80, 90 ans avec tes douleurs. Non. Et je crois que ça a changé, ça nous a permis d'entrer dans un nouveau commencement, vraiment un nouveau commencement, en se disant, mais Seigneur, au fond, tu nous tiens debout, comme les gens du monde, mais on a en nous ce souffle de vie, celui de la Genèse, celui de ces premiers versets de l'évangile de Jean, c'est bien pour qu'on fasse de notre vie, de notre petit corps un peu vermoulu, qu'on en fasse non seulement le temple du Saint-Esprit, alléluia, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais qu'on en fasse aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Alors on continue à proclamer la parole de Dieu, en se disant que notre proclamation, la parole que l'on annonce, elle doit être imprégnée de ce souffle de vie. Et puis après, on continue à dire, Seigneur, du colir tous les jours. Hein. On veut voir. Viens et vois. On veut voir, mais avec ta perception, avec ton acuité. On veut voir pour ne pas se laisser piéger, tromper, berner. Et puis après, Seigneur, donne-nous ta force pour que nos mains, pour que notre être tout entier puisse être une vraie source de bénédiction pour les autres. Et puis dans ce texte, on se rend compte que ouais, tout ça, c'est bien, mais ça prend un petit peu de temps. Vous avez remarqué ? Ah, moi, je suis une bouillante, hein, c'est tout de suite. Et puis le tout de suite, c'est le parcours de l'aveugle avec Jésus sur le chemin, un petit peu de boue. Ouais, en fait, Jésus, c'est un homme en marche, c'est un Dieu en marche. Et on est en marche avec lui, et c'est pendant qu'on marche qu'il agit. C'est pendant qu'on marche qu'il travaille nos cœurs. Alors après le culte, marcher et méditer. Et là, eh ben, Élisée, il découvre sous ça, ou en tout cas, il nous enseigne ça. Il s'est couché sur l'enfant, il a transmis ce souffle de vie, cette vision spirituelle qui reconnecte l'enfant à cette réalité que Dieu veut pour lui. Il a touché ses mains et puis il se lève et il marche dans la chambre. Au fond, c'est même pas lui, Élisée, qui fait tout ça. C'est Dieu qui se meut, comme dans la Genèse, au-dessus de cet enfant, dans cette pièce, et Dieu agit. Et il se passe des choses dans l'invisible qu'on n'imagine pas. Et parfois, nous, on veut des sensations immédiates, rapides. On a chaud, on tremble, on pleure, on se dit « Waouh, ça y est !» Alors oui, ça fait partie de nos réalités humaines, mais pendant ce temps-là, l'esprit se meut et agit. Et quand Élisée marche, il se passe des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas décrites. Mais ça permet à Élisée de persévérer Et Élisée se couche à nouveau sur l'enfant. Tu as peut-être déjà proclamé les choses une fois, deux fois. Peut-être tu as déjà fait tout ça et tu te dis, bon, pas grand-chose. Mais l'enfant avait commencé à se réchauffer, comme cette terre qui doucement au printemps reçoit un peu de soleil et puis un peu de rosée. Il ne se passe rien, mais la terre se réchauffe. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant éternue. Il y a le petit bourgeon qui sort. Il y a quelque chose qui est visible. Puis, vous savez, la Bible, elle est pleine d'humour aussi. Il éternue sept fois. Moi, toujours, je me dis, mais il y a des détails dans la Bible. C'est franchement, sept fois, sept jours. Vous vous rappelez ? Il y a toujours des liens entre les textes bibliques, les récits bibliques. Et il y a toujours des liens qui font qu'on se rend compte que dans cette parole écrite, l'Esprit de Dieu se meut et nous permet de nous laisser entraîner dans quelque chose qui nous sort du texte et qui nous renvoie à notre vie. Il éternue sept fois. Il expulse les choses qui peut-être lui ont donné mal à la tête, l'ont endormi de ce sommeil profond, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que quand la vie pénètre en nous, quand Dieu agit, il y a un mouvement qui nous permet aussi d'expulser, de faire sortir tout ce qui nous prive de la plénitude de la vie. Alors ça vaut pour cette transformation intérieure. Et je ne peux pas en faire l'économie ce matin parce que je sais qu'au milieu de nous, il y a des tout nouveaux, hein, des nouveaux bébés, des personnes qui viennent juste de donner leur cœur au Seigneur, voire qui sont juste en chemin. Mais oui, quand Dieu te touche, ça bouscule les choses. Ça fait éternuer, une fois, deux fois. Mais il y a des choses qui doivent sortir absolument. On ne peut pas vivre pareil quand Dieu a touché nos vies qu'avant. On ne peut pas continuer à s'accommoder du péché, des petites choses. Jésus arrache la femme adultère à sa condition. Il en prend soin, il la couvre d'amour. C'est extraordinaire ce qui se passe. Mais il lui dit, va, il ne pêche plus. Il faut qu'elle éternue un peu, beaucoup, pour qu'elle règle les choses. Et puis les hommes et les femmes de Dieu. Mais on l'aide dès qu'on dit oui à Jésus. Hein, et on est tour à tour. Et cet enfant et le prophète. On a besoin d'apprendre à persévérer. Et à identifier les petits signes. Ce petit nuage qui arrive et qui annonce la pluie. Le réchauffement de ce corps qui fait qu'on continue à avancer. Le premier éternuement et puis le deuxième. Et il faut être là, il faut accompagner jusqu'au miracle. Il y a de nouveau la vie dans la chambre. Dieu veut ce matin te redonner confiance dans un nouveau commencement. Souvent on dit, on a tiré des leçons, c'est foutu. Non, oui c'est bien de tirer des leçons. Et qu'est-ce qu'on apprend de tous ceux qui nous ont précédés ? Alors apprenons de ce texte sur le fait qu'il y a des nouveaux commencements. Là où on pensait que plus rien n'était possible, des nouveaux commencements autrement, par d'autres moyens, sous d'autres formes. Mais ce matin, la bonne nouvelle pour vous, c'est la même bonne nouvelle que dans ce texte. C'est que l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous ce matin. C'est qu'il y a une parole créatrice. Une parole de vie pour toi, pour les situations que tu traverses difficiles. Il y a un regard nouveau qui t'est donné. Et puis il y a la possibilité que tu te mettes en action, hein, que tu bouges. Il fallait aussi que le corps de l'enfant, que ses mains se remettent en action pour qu'il puisse peut-être retourner au champ avec son père. Alors, peuple de Dieu, bien-aimé, mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur, eh bien, reçois ce matin ce message d'espérance. Reçois-le véritablement comme quelque chose qui te permet d'entrer dans un nouveau commencement. Relis le début de la Genèse, le début de l'évangile de Jean et l'histoire de la Tsunamite et fais de ces textes ces paroles qui vont te permettre de recevoir la bénédiction qui t'est promise ce matin. Amen. Merci Seigneur. Merci à vous.